Bonjour et bienvenue sur le terrain de jeu. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour discuter de l'économie comme nous la vivons et comme nous la voulons. Un Mageco format spécial ce samedi, au lendemain de la présentation du budget. Quasiment à mi-chemin du quinquennat, le ministre de l'économie est dans ce studio. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour cette interview, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Un ministre issu de la droite puis un penseur de gauche ce matin dans le Mageco. Ce sera le prix Nobel Joseph Stiglitz pour son nouvel ouvrage. Et juste avant 10h, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
On se retrouve en fin d'émission, mais tout de suite, interview grand format avec notre invité, Bruno Le Maire.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Je ne fais pas une politique pour tel ou tel type de catégorie. Ce que je dis simplement, c'est que s'agissant de la dépense, l'État doit donner l'exemple en réduisant fortement les dépenses qu'il a laissées se développer de façon excessive. Il est essentiel de viser une situation au plus tard dans 2 ans qui sera une situation où on commencera à baisser les impôts et les charges. Et qu'enfin, vous avez une situation qui exige de la justice sociale et économique. Ce qui veut dire que les efforts doivent être d'abord assumés par l'État, ensuite par ceux qui ont les moyens de le faire, qu'ils ne doivent pas décourager ceux qui produisent et qui travaillent, et qu'ils doivent épargner ceux qui sont les plus démunis.
Jacques Chirac, en octobre 1995, il est à l'Élysée depuis quelques mois, et là nous sommes quelques semaines juste avant le grand mouvement social contre le plan Juppé, sur les retraites et la sécu. Bruno Le Maire, est-ce que le ministre de l'économie que vous êtes porte un fil directeur Chirac, un héritage Chirac?
Écoutez, quand j'entends la citation que vous venez de diffuser, je me retrouve totalement dans les orientations que fixe Jacques Chirac. Réduire la dépense publique, faire en sorte que ceux qui travaillent ne soient pas découragés de travailler, et soutenir les plus démunis. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec le président de la République, Emmanuel Macron. Donc je m'y retrouve totalement. Et je constate que lorsque j'ai pu travailler avec Jacques Chirac de 2005 à 2007 comme directeur de cabinet du Premier ministre, nous avons obtenu des résultats sur ces fronts. Parce qu'en 2007, avec Dominique de Villepin, nous avons laissé une France où les comptes publics étaient rétablis. C'est notamment l'action du ministre des Finances de l'époque, Thierry Breton, où le chômage avait baissé de plus de 2 points. C'était l'action de Jean-Louis Borloo, qui était ministre du Travail, et où la prospérité commençait à revenir. Donc nous avons fait ce travail-là.
Christian Chavagneux.
Oui, les économistes de l'Institut des politiques publiques ont fait une analyse de ce qui s'est passé en matière fiscale depuis 2000, et ils nous disent, contrairement à ce qu'on croit, en France, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a vraiment baissé beaucoup les impôts sur les riches, c'est plutôt Jacques Chirac. Ça fait partie de votre héritage aussi?
Baisser les impôts,
sur les plus riches.
Ça fait partie de mon héritage et de ma volonté. Il faut baisser les impôts et baisser les taxes dans notre pays pour le rendre plus attractif et pour permettre à ceux qui travaillent de vivre dignement leur travail. Regardez ce que nous avons fait sur l'impôt sur le revenu. Dès l'année prochaine, il va baisser. Et baisser l'impôt sur le revenu, ça n'est pas baisser l'impôt sur les plus riches, c'est baisser l'impôt sur des gens qui vont gagner 1700, 1800 euros par mois, 3000 euros en couple, et qui ont le sentiment, et je pense que c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, qu'on leur prend trop par rapport à ce qu'ils gagnent.
Dernière question sur l'héritage Chirac, oui. Emmanuel Le Chypre.
Est-ce que quand même l'héritage Chirac, c'est pas l'héritage d'une France qui décroche quand même quelque part? Est-ce que c'est pas finalement un président qui a surprotégé les Français en refusant de faire les grandes réformes que tout le monde faisait à l'époque? Si vous prenez tous les grands indicateurs à la fin des années 90, on est même plus fort que les Allemands. Dans les années 2000, tout décroche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas fait ces grandes réformes que tout le monde a fait ailleurs?
Je pense qu'il y a eu des choix courageux qui ont été faits, en particulier de 2005 à 2007. Je crois que Dominique de Villepin était un grand Premier ministre et a pris un certain nombre de décisions qui ont permis de faire baisser le chômage. Je pense au contrat nouvelle embauche, par exemple. Mais il y a un certain nombre d'adaptations structurelles qui n'ont pas été faites. Ça, je vous rejoins totalement. Sur la question industrielle, sur l'innovation, sur la compétitivité de nos entreprises, de nos produits, sur l'adaptation aux grandes innovations technologiques. Il y a des choix à faire que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui ont été faits tardivement. Donc il y a eu effectivement ce décrochage. Et aujourd'hui, tout le travail que nous essayons de faire, toute la transformation économique que nous portons, c'est avec une ambition que la France retrouve le premier rang économique en Europe. Et j'ai la conviction profonde que nous avons tout pour réussir. absolument tout. Mais ça suppose, sur l'innovation, sur la recherche, sur la fiscalité, sur la compétitivité des entreprises, de faire un certain nombre de choix courageux que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
Alors Bruno Le Maire, où sont les choix? Justement, il y a un texte chaque année fondateur de ces choix qui traduit un texte économique qui traduit de la politique. C'est le projet de loi de finances pour 2020. On va essayer de comprendre avec vous s'il s'agit plutôt de rupture ou de continuité. Vous, vous avez dit en présentant ce projet de budget, vous avez dit c'est un acte politique. Qu'est-ce que ça signifie?
Un acte politique, ça veut dire des choix avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais des choix qui sont clairs. Il y a trois choix fondamentaux, des choix politiques qui sont faits dans ce budget. Le premier, c'est de continuer à rétablir les finances publiques. On aurait pu complètement laisser filer en disant les taux d'intérêt sont négatifs, donc on dépense à tout va. Nous avons fait un choix différent. Le déficit public en 2020, il sera de 2,2%, c'est le meilleur chiffre depuis 20 ans, et c'est très en dessous des 3% qui nous sont demandés par l'Union européenne. Le deuxième choix qui est fait, c'est que le travail doit payer. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un des problèmes fondamentaux en France. Le travail ne paye pas suffisamment. Alors comme on a des politiques redistributrices très généreuses, on arrive à réduire les inégalités grâce à ces politiques. Mais à la base, comme le travail ne paye pas suffisamment, notamment pour ceux qui ont les niveaux de rémunération les plus faibles, eh bien vous avez des personnes, des salariés, qui estiment qu'ils ne vivent pas dignement de leur travail. Donc ce que nous faisons sur l'impôt sur le revenu, ce que nous avons fait sur la prime d'activité, ce que nous faisons avec l'intéressement, et j'appelle vraiment toutes les PME à développer massivement l'intéressement, maintenant que nous avons supprimé la taxe sur l'intéressement. Ça ne vise qu'un seul objectif, le travail doit permettre de vivre dignement. Et puis il y a un troisième choix qui est fait, choix politique auquel je tiens beaucoup, c'est financer, pour répondre à Emmanuel Le Chypre, l'innovation, la recherche, l'investissement dans l'avenir. On me dit par exemple qu'il faut absolument raboter le crédit impôt recherche, c'est 6 milliards, c'est beaucoup trop. Eh bien il n'en est pas question. Je le dis très simplement, il n'en est pas question, parce que ce serait renoncer à l'avenir de la France et ce serait abandonner les investissements dans les nouvelles technologies.
Alors sur le premier axe, la baisse des dépenses publiques, le surveiller le déficit, toujours assainir les finances, Emmanuel Le Chypre, c'est pas ce que les économistes ont dit.
Je comprends bien vos choix. Alors les deux premiers budgets, on voit bien que c'était plutôt en faveur des entreprises. Là, on a un choix qui est plutôt en faveur du pouvoir d'achat, plus que du travail d'ailleurs. Mais au-delà, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration structurelle de nos finances publiques. Vous dites que le déficit va diminuer, mais si vous excluez l'effet transformation du CICE en baisse de charges, on est au même niveau qu'en 2019. Le fameux déficit structurel, celui qui ne tient pas compte des fluctuations de l'activité, il est au même niveau qu'en 2017. Les réductions d'effectifs, vous avez considérablement revu à la baisse vos objectifs. Donc, il n'y a pas d'assainissement fondamental de nos finances publiques.
Nous avons stabilisé la dette. Elle avait explosé 30 points en plus depuis 10 ans. Nous tenons les comptes publics. Il y a un ajustement structurel zéro, ça veut dire que nous ne laissons pas les déficits publics filer. Nous faisons un certain nombre de choix qui sont difficiles pour réduire la dépense publique. Prenez l'exemple de la fameuse niche fiscale sur le gazole non routier, c'est 1 milliard d'euros, nous la supprimons, c'est conforme avec nos ambitions de transition énergétique et ça permet en même temps de réduire la dépense publique de 1 milliard d'euros. Donc tous ces choix-là, ils sont dans le budget 2020. Ensuite,
on est très loin des objectifs du début de quinquennat.
Mais parce qu'il y a eu une crise sociale. Et je le reconnais très volontiers parce que vous avez des millions de Français qui nous ont dit « Attendez, nous on ne vit pas bien de notre travail ». Donc il va falloir que vous fassiez quelque chose, que vous nous rendiez des taxes, des impôts, que notre travail paye plus, parce qu'on ne s'en sort pas. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Parce que quand vous regardez la situation de la France depuis la crise financière de 2008, l'un des éléments qui me touche le plus, et je ne parle pas économiquement, je parle humainement, c'est que les salariés les plus modestes ont des salaires qui n'augmentent pas suffisamment, qui parfois stagnent, et qui en tout état de cause ne leur permettent pas de vivre dignement. Donc quand vous dites, voilà, on va dégager 5 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu pour ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, je pense que c'est juste. Quand vous augmentez par la prime d'activité le SMIC de 100 euros, je pense que c'est juste parce que ça répond à cette donnée structurelle française qui me touche personnellement, qui est que les salariés les plus modestes ne vivent pas dignement de leur travail. Après, pour terminer mon raisonnement, est-ce qu'il faut faire plus sur la dépense publique? Oui. Et je souhaite que dès que nous aurons fini d'examiner ce budget, qui est un budget aussi de réponse à la crise des Gilets jaunes, nous puissions, avec tous les parlementaires, notamment ceux de la majorité, regarder les dépenses publiques et que nous regardions les champs de dépenses publiques sur lesquels nous pouvons engager des réductions structurelles.
Christian Chavagneux. En même temps, quand vous supprimez les contrats aidés, quand vous réduisez les APL, quand vous dites que vous allez faire 1 milliard d'économies sur les APL, vous reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre.
Mais parce que c'est le travail qui doit payer. C'est pas les allocations. C'est bien notre philosophie. Ma philosophie, la philosophie politique et économique du président de la République, c'est que le travail doit payer et que nous voulons substituer une rémunération par les allocations ou les aides sociales à ce système-là, nous voulons substituer une meilleure rémunération du travail. Et donc les milliards d'euros que nous mettons sur les primes défiscalisées, sur l'aide à l'emploi, sur l'impôt sur le revenu, c'est pour faire en sorte que ce soit le travail qui paye.
Donc tous les plus pauvres vont retrouver du travail. Tous les plus pauvres vont retrouver du travail.
Tous les plus pauvres doivent être incités à retrouver du travail, bien entendu. C'est bien ça notre objectif, le plein emploi. Qu'on vive de son travail. Moi, j'ai la conviction, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est une conviction personnelle forte chez moi, que tout le monde aspire à trouver un travail. J'ai jamais considéré qu'il y avait des feignants qui se tournaient des pouces en se disant « je vis sur le dos de la bête ». Ça, c'est une infime minorité.
Donc,
la réalité, c'est que l'immense majorité des Français veulent retrouver un travail, veulent vivre de leur travail, et que notre responsabilité politique, c'est qu'ils puissent en vivre. Et regardez attentivement les chiffres, les statistiques, les derniers rapports de l'INSEE. Depuis la crise financière de 2008, vous avez des millions de Français qui n'ont pas retrouvé un niveau de salaire décent. Et c'est un problème politique majeur.
Est-ce qu'on n'a pas là quand même dans votre politique économique à mi-mandat une inflexion majeure? On se souvient que pour François Hollande, à mi-mandat, 18 mois après le début de son mandat, il a fait 20 milliards de baisses d'impôts pour les entreprises, c'était pas prévu. Et là, on a donc l'exécutif qui a été élu avec un programme plutôt pro-business, libéral, et qui tout à coup, dans son quinquennat, va faire 20 milliards de baisses d'impôts pour les ménages. Est-ce que à mi-mandat, il y a toujours une inflexion, un retournement de la politique économique?
Il n'y a pas de changement de politique économique, c'est une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui vise à améliorer les capacités de production du pays, avoir des meilleurs produits qui se vendent mieux, qui ont plus de valeur ajoutée, qui sont de meilleure qualité et qui nous permettent de gagner des parts de marché à l'exportation pour créer de la richesse et des emplois dans notre pays. J'ai entendu les critiques du MEDEF qui se dit inquiet que ce budget marque un abandon de la politique de l'offre. Je pense que les critiques du MEDEF sont injustes et infondées. Je voudrais leur rappeler que nous avons eu le courage de maintenir la baisse de l'impôt sur les sociétés qui sera à 25% en 2022 pour toutes les entreprises, même les plus grandes. Que nous avons sanctuarisé le crédit impôt recherche. Qu'il y a dans la loi Pacte, que j'ai fait adopter il y a quelques mois, des mesures qui sont attendues par les chefs d'entreprise, notamment de PME, depuis des années, notamment sur les seuils sociaux. Donc nous maintenons cette politique de l'offre, parce que pour moi c'est la seule qui permettra de créer des emplois. Ça ne nous empêche pas de répondre aussi aux attentes de ces millions de Français qui nous disent « nous voulons vivre dignement de notre travail ».
Emmanuel Le Chypre.
Oui, mais alors, vous dites les Français, on les a entendus après les Gilets jaunes, c'est un budget post-Gilets jaunes. En même temps, on est quand même un peu surpris. Quand on regarde quelles étaient les principales préoccupations des Français telles qu'elles sont sorties dans le grand débat, et les priorités que vous affichez pour la deuxième, l'acte 2 du quinquennat. En gros, c'est immigration, retraite. C'était absolument pas des sujets que les Français voulaient voir abordés. L'immigration ne revenait quasiment jamais. Vous dites on fait beaucoup pour les entreprises, certes, mais ce que demandent les patrons par-dessus tout, leur obsession, c'est les fameux impôts à la production. Or là, qu'est-ce que vous faites? Donc, est-ce que vous ne craignez pas quand même d'être en décalage avec les attentes des Français? Parce que leur vraie revendication, c'était un service public de meilleure qualité pour moins d'impôts. Là-dessus, le service public de meilleure qualité, on voit pas grand-chose.
Leur vraie revendication, c'est que le travail paye. Sur les services publics, regardez ce que fait le ministère de l'économie et des finances et ce que nous faisons avec Gérald Darmanin. C'est-à-dire que vous avez un meilleur service, prenez le prélèvement à la source, qui est un grand succès dont le ministère de l'économie et des finances et Gérald Darmanin sont les premiers responsables. Ça permet ensuite de réduire...
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'est le village Potemkin de la réforme.
Ah ben,
c'est toujours à Bercy qu'on fait les plus belles réformes. Le reste,
on est là,
ça bouge pas.
On est là pour donner l'exemple.
Non, l'état profond, comme dit Emmanuel Macron, l'état profond ne se réforme pas.
Et je souhaite que nous poursuivions cette transformation. Mais je pense être très clair avec vous. Si certains ont des inquiétudes et se disent, tiens, ce budget il marque une inflexion, non seulement ils répondent à la crise des Gilets jaunes, mais dans le fond, ils sont en train de renoncer à l'objectif de baisse de la dépense publique et de compétitivité des entreprises. Je vous dis, vous avez tout faux. Je n'abandonnerai pas, parce que c'est ma conviction profonde, le rétablissement de la compétitivité des entreprises. Ça passe par plus d'innovation. Ça passe aussi par la baisse des impôts de production. Et je ferai des propositions dans le cadre du pacte productif d'ici quelques semaines pour que nous puissions engager cette baisse des impôts de production.
Vous allez démarrer la baisse des impôts de production pour les entreprises.
Je souhaite qu'on définisse un calendrier qui permette aux entreprises de savoir quand nous démarrons la baisse des impôts de production. On ne va pas le faire tout de suite parce que nous n'avons pas les marges de manœuvre, mais qu'il y ait un calendrier, qu'il y ait des perspectives pour les entreprises. Car ces impôts de production, c'est 70 milliards d'euros, ils sont trois fois plus élevés qu'en Allemagne et ça nous empêche d'ouvrir des usines et de créer des emplois. Donc regardons ensemble comment définir ce calendrier. Et sur la dépense publique, je le redis, je lance un appel à tous les parlementaires, de la majorité comme de l'opposition. Regardons les masses de dépenses publiques sur lesquelles nous sommes prêts à réduire cette dépense en échange de transformations structurelles. Prenez l'exemple des chambres de commerce et d'industrie. On récupère quasiment un demi-milliard d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie. Mais on ne le fait pas comme ça en leur prenant l'argent. On leur dit on fait les économies et en échange de cela, on modifie le statut des agents des chambres, on leur offre la possibilité de conclure des contrats avec les entreprises privées. Donc on leur donne la possibilité de supporter cette réduction de la dépense. Et ça prend deux choses, du temps et du dialogue. Si vous voulez réduire la dépense publique, il faut du temps et du dialogue.
Est-ce qu'aujourd'hui, réussir la réforme des retraites, c'est devenu plus important que baisser la dette, Bruno Le Maire ?
Non, baisser la dette reste pour moi un objectif stratégique. Nous l'avons stabilisé. Je pense que tous ceux qui nous disent « les taux d'intérêt sont négatifs, donc endettez-vous autant que vous voudrez », ce n'est pas ceux qui, ensuite, quand les taux d'intérêt auront remonté, viendront expliquer aux Français que la charge de la dette a été multipliée par 2, par 3 ou par 4.
Alors, sur les taux négatifs, Emmanuel Le Chypre, il y a une petite musique inquiétante.
Hein. Bah oui, parce qu'au début, tout le monde trouvait ça formidable pour l'État.
Je n'ai jamais trouvé ça formidable.
Non, mais pour l'État qui s'endette pas cher, et puis même ceux qui veulent emprunter. Alors, l'épargnant, au départ, on se disait, bon, il gagne pas grand-chose. Mais la petite musique qu'on entend nous emmène beaucoup plus loin sur des territoires beaucoup plus inquiétants. C'est, par exemple, Generali qui dit, ah bah non, finalement, maintenant, les fonds d'assurance-vie en euros, le capital garanti, tout ça, c'est un autre monde. C'est certaines banques qui commencent à taxer les dépôts. Alors certes, de leurs clients les plus riches. Voyez, les épargnants aujourd'hui se disent « Mais attendez, si mon capital n'est plus garanti, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais sortir du liquide, que je vais tout mettre sous mon oreiller ? Est-ce que du coup, ce liquide, on va me le reprendre d'une façon ou d'une autre ?» C'est quand même un climat extrêmement anxiogène aujourd'hui.
Je n'ai jamais trouvé formidable les taux d'intérêt négatifs. Et je considère qu'ils peuvent être une illusion. Et que le rôle d'un responsable politique, c'est justement de dissiper les illusions. Ça représente au moins trois dangers, les taux d'intérêt négatifs. Le premier, c'est le relèvement des taux à un moment ou un autre qui fera exploser la charge de la dette. Et ma responsabilité de ministre des Finances, c'est de protéger les Français contre cela en poursuivant l'assainissement des finances publiques, en stabilisant la dette et dès que nous en aurons la possibilité, en la réduisant. Le deuxième risque que cela fait peser, c'est sur tous les petits épargnants qui n'ont pas les moyens d'investir. Parce que eux, ils se retrouvent avec des dépôts à vue qui ne sont pas rémunérés ou des comptes qui sont peu rémunérés. C'est très bien pour ceux qui peuvent investir, acheter une maison dont le prix va augmenter, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et les épargnants les plus modestes se retrouvent fragilisés par les taux d'intérêt négatifs. La troisième raison, c'est celle que vous venez de donner, c'est que pour le secteur de la banque, de la finance, de l'assurance, alors je sais que c'est un secteur qui parfois a une image qui n'est pas positive, mais enfin c'est au total 800 000 emplois dans notre pays. Parfois des emplois qui ne sont pas très qualifiés. Regardez la situation de certaines banques qui sont obligées de réduire les effectifs parce qu'elles sont plus rentables. Quand votre métier, c'est de prêter de l'argent et que les taux d'intérêt sont très faibles, vous gagnez plus d'argent sur les prêts que vous faites et donc vous êtes obligé de fermer vos agences ou de supprimer les emplois. Donc ça représente un vrai risque pour le secteur financier qui est un secteur d'excellence dans notre pays dans lequel il y a des centaines de milliers d'emplois. Sur les taux de dépôt, je veux simplement dire une chose aux banques. Quand les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés, on n'a pas rémunéré les dépôts à vue. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsque les taux baissent, tout d'un coup, il y aurait un prélèvement sur les ménages. Et je suis totalement opposé à cette idée que les banques puissent, parce que les taux d'intérêt deviennent faibles ou négatifs, que les banques puissent prélever quoi que ce soit sur les ménages français. Et j'aurai l'occasion de le dire à la Fédération bancaire française très prochainement.
Christian Chavagneux, donc musique inquiétante sur les taux d'intérêt négatifs, mais ça peut aussi être une opportunité.
Voilà, exactement. Les économistes et les banquiers centraux nous disent que ces taux d'intérêt, si ce n'est négatif, au moins bas, vont rester bas pendant très 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 longtemps. Plutôt que de continuer à courir après la baisse de la dépense publique, après en fait le gros des dépenses publiques, les dépenses sociales, le chômage, les retraites, les aides aux pauvres, vous êtes en train de tailler dans le modèle social français. Parce que ce n'est pas le moment, plutôt, de profiter de ces taux d'intérêt extrêmement bas pour faire de la relance verte que tout le monde attend.
D'abord, je ne peux pas laisser dire qu'on taille dans le modèle social français quand on augmente l'allocation adulte handicapé, quand on augmente le minimum vieillesse, quand on fait justement attention aux plus fragiles. On ne le fait pas. Ensuite, je me méfie, comme dans la citation de Jacques Chirac que vous venez de donner, des économistes.
Nous aussi.
Évidemment, non, mais ils font leur travail et nous avons une école d'économie en France qui est extraordinairement prestigieuse. Je vois des économistes, je les écoute, mais ce n'est pas eux qui sont responsables devant les Français. Et donc, quand on me dit les taux d'intérêt vont rester négatifs très longtemps, ça veut dire quoi ? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Moi, j'ai la charge de la dette qui est celle des Français et qui est celle des contribuables français. Donc, je ne peux pas me permettre de dire aux générations qui viennent, je vais faire passer le taux de dette française à 105, 110, 115 %. Et puis, c'est les générations qui viennent, le jour où les taux d'intérêt auront remonté, qui paieront.
Mais si c'est ça pour
n'est pas possible.
Bruno Le Maire, si c'est pour fabriquer la croissance de demain.
Si la planète est brûlée, monsieur le ministre.
C'est très sympathique, mais quelle garantie vous avez que tel investissement sera bien uniquement sur de l'innovation, des technologies et pas sur la dépense de fonctionnement? Moi, je parie que si vous laissez filer la dépense publique, ça ira dans des dépenses de fonctionnement ou dans des dépenses sociales. Ça n'ira pas dans des dépenses d'investissement ou de nouvelles technologies. Et donc, je préfère la méthode que nous avons employée, qui est de créer des fonds d'innovation, des plans d'investissement, qui sont financés notamment par des cessions d'actifs et qui permettent de financer cette innovation. Parce que vous le financez non pas par plus de dépenses publiques ou plus de dépenses de fonctionnement, mais par de vraies dépenses d'investissement.
Alors Christian Chavagneux, vous demandez, on va en reparler, s'il n'était pas temps de financer quand même de grands investissements verts, écologiques, de participer à la transition.
Mais nous le faisons.
Bruno, on va en parler. Bruno Le Maire, vous étiez en début de semaine avec Emmanuel Macron à l'ONU. Et encore une fois, le discours de Greta Thunberg a créé l'événement.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Les gens souffrent, les écosystèmes s'effondrent et tout ce dont vous êtes capable de parler, c'est d'argent et puis de contes de fées de croissance éternelle. Comment osez-vous ? How dare you ? Voilà ce qu'elle dit, Greta Thunberg. Elle suscite une terrible détestation chez certains, chez d'autres un formidable élan. Pour le ministre de l'économie, qu'est-ce que c'est, Greta Thunberg ?
C'est un message d'alerte qu'il faut écouter. Je ne partage pas son discours catastrophiste. Je pense qu'elle se trompe de combat quand elle cible la France qui essaie justement de porter cette lutte contre le changement climatique. Si vraiment il fallait viser des États, ce serait plutôt les États-Unis qui sortent de l'accord de Paris ou le Brésil. Donc je pense qu'elle se trompe de combat en ciblant la France. Mais il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que je le vois avec mes enfants, je le vois avec les étudiants que je peux rencontrer. Il y a une prise de conscience aiguë, presque tragique, je dirais, de ce que l'avenir de notre planète aujourd'hui est menacé. Et que nous devons trouver les politiques qui permettent de lutter contre ce réchauffement climatique.
Donc des grands
investissements. En revanche, sur la méthode, parce que nous sommes responsables politiques, nous ne sommes pas là pour lancer des alertes. Ça suppose des investissements, nous en faisons. Ça suppose aussi des accompagnements, parce que au-delà de ces grands discours, moi j'étais à Rodez cette semaine, chez les salariés de Bosch, il y a 1500 emplois pour faire des injecteurs diesel. C'est trop facile de dire du jour au lendemain, on abandonne le diesel, mais écoutez, trouvez un autre travail, on ferme votre usine et débrouillez-vous. Donc il faut trouver des solutions qui soient à la fois efficaces et progressives. Je sais bien qu'on n'y a pas le temps, il y a urgence, il faut faire tout de suite. Et c'est le rôle des nouvelles générations de nous mettre l'épée dans les reins. C'est leur rôle. Mais nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce soit supportable par tous, y compris par les centaines de milliers ou les millions de salariés en Europe qui travaillent aujourd'hui dans l'économie carbonée. Il faut accompagner cette transition.
Donc ça veut dire qu'il faut remettre une taxe carbone, Bruno Le Maire.
Bon, en tout cas, une taxe carbone aux frontières, c'est indispensable. Parce que je veux bien qu'on réduise la trace carbone en France, mais si c'est pour continuer à importer des produits qui sont carbonés, le bilan ne va pas être génial. Donc la taxe carbone aux frontières, c'est la première chose. La taxe carbone en France, on l'a supprimée pour 2020, mais on verra ce que nous dira la commission citoyenne qui va faire des propositions sur ce sujet. Après tout, on peut parfaitement imaginer que cette commission nous dise « Vous pouvez remettre une taxe carbone, mais il faut que chaque euro que payera le citoyen pour le carbone soit compensé pour le citoyen. »
On avait compris ces derniers jours que c'était, la trajectoire de la taxe carbone avec Gérald Darmanin, c'était fini, elle n'allait plus augmenter jusqu'en 2022. Vous dites non, c'est possible si la convention citoyenne...
Je vous dis que dans le PLF de 2020, le projet de loi de finances, il n'y aura pas de taxe carbone, mais que si on a créé une convention citoyenne, c'est pour écouter les citoyens. S'ils ont des propositions à nous faire là-dessus, moi je peux vraiment imaginé qu'à un moment donné, on dise qu'il faut mettre un prix au carbone, mais ce n'est pas les Français qui doivent payer. C'est-à-dire que vous mettez une taxe carbone, mais chaque euro qui sera payé par les Français pour cela leur sera intégralement compensé. C'est ce que les Suédois sont arrivés à faire.
Allez, Bruno Le Maire, il nous reste une minute avant de se quitter. Il y a de l'actualité ce matin avec l'usine Lubrizol à Rouen, incendie spectaculaire à 3 km du centre-ville, à quelques dizaines de mètres des habitations. C'est une usine chimique classée Seveso, seuil haut. Elle a eu plusieurs accidents en 89, en 2013, en 2015. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut arrêter définitivement cette usine?
Ça, ce sera responsable de le dire aux ministres qui sont en charge de ces sujets. Ce que je sais, c'est que ça montre un modèle de développement qui, effectivement, ne peut plus être le modèle de développement du XXIe siècle. Les usines chimiques au cœur des villes, c'était très bien au siècle précédent, c'est plus possible au siècle suivant. Ça fait partie des questions qu'on devra se poser. En tout cas, vous me permettrez juste d'avoir un message de soutien à mes amis rouennais. Je suis élu de cette région et je peux imaginer quel drame c'est pour tous les habitants qui sont touchés par cet incendie.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, merci d'avoir été
merci
sur France Inter. Et ce matin, le Magéco a donc un pied en France et un autre aux États-Unis, la première économie mondiale. Dans quelques instants, entretien avec le prix Nobel Joseph Stiglitz. Mais d'abord, je vous emmène faire une photo à Washington.
The President of the United States.
We will make America grow again.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis et la photo du pays, c'est celle que nous révèle tout frais le chiffre de la consommation des Américains. Il est tombé hier. Pierre-Yves, la surprise, c'est que les Américains consomment moins que prévu.
C'est certainement vrai pour le mois d'août. Au mois de juillet, le bond de la consommation avait été de 0,5%. Ça prolongeait la tendance de forte consommation du second trimestre. Et puis on voit qu'au mois d'août, plus 0,1% seulement. C'est d'autant plus surprenant qu'on sait que les revenus des Américains, les salaires des Américains augmentent toujours assez rapidement. Le moral des consommateurs américains a même rebondi en septembre. Il est porté par un taux de chômage qui est pratiquement le plus bas depuis 50 ans. Un niveau d'embauche qui est encore soutenu. Donc ce ralentissement du mois d'août est une déception, mais ça n'est peut-être qu'une pause avant un quatrième trimestre qui, traditionnellement, est marqué par une forte consommation en raison des achats de fêtes de fin d'année.
Donc vous nous dites que ça n'est peut-être qu'un nuage, Pierre-Yves, mais quand même, ça pose au moins une question.
Il y a une question d'autant plus inquiétante que c'est maintenant que commencent à entrer en vigueur les augmentations de droits de douane sur des produits chinois de grande consommation. Jusqu'à présent, c'était des produits intermédiaires qui étaient frappés. Et maintenant, on est en train d'entrer dans le dur. Le consommateur américain va directement percevoir une augmentation des prix sur des produits de grande consommation, ce qui peut affecter son pouvoir d'achat, donc la consommation. L'autre inquiétude, c'est qu'on voit déjà depuis le second trimestre que l'investissement aux États-Unis recule et la production manufacturière est au bord de la récession. On attribue d'ailleurs tout cela à 15 mois de guerre commerciale avec la Chine qui provoque une grande réticence des entreprises américaines à investir.
Merci Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Où va cette Amérique de Trump? On va poursuivre la réflexion et même où nous emmène le capitalisme? C'est maintenant.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et ce samedi, le Magéco reçoit le prix Nobel d'économie 2001 qui vient défendre son dernier livre. Ça s'appelle « Peuple, pouvoir et profit, le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale ». Bonjour Joseph Stiglitz.
Nice to be here.
Vous avez aussi été conseiller de l'administration Clinton. Vous êtes un économiste engagé, un démocrate. Alors, première question politique, la mise en route cette semaine de la procédure de destitution de Donald Trump, est-ce que c'est une bonne chose pour les États-Unis?
I think we have very little choice.
En réalité, nous n'avons guère le choix.
We have to show that no one,
nous devons
not even
démontrer
the president,
que personne n'est au-dessus de la loi, même
and,
le président des États-Unis.
The evidence seems overwhelmingly
et apparemment, les preuves sont accablantes.
He has broken
le président Trump
not only norms, which he's done over and over again,
transgressé
but
les normes
and
de bonne conduite, ce qu'il a fait de nombreuses fois, mais aussi la loi. Et malheureusement, le seul remède à notre disposition, c'est le processus de destitution. Donc, même si les républicains au Sénat n'agissent pas pour la destitution, je pense que la Chambre des représentants doit dire, eh bien, ce genre de comportement scandaleux ne peut pas passer comme ça sous silence.
Alors si on vient à l'économie, Joseph Stiglitz, pour tout dire, vu de France, les États-Unis font envie, le chômage est sous les 4%, la croissance, elle est à plus de 2%, great. Et pourtant, vous, dans votre livre, vous fustigez la politique économique de Donald Trump, vous écrivez que c'est un Reagan sous-anabolisant. D'accord, peut-être, mais et si les résultats sont là ?
En réalité, si l'on regarde les choses précisément, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas si bons que ça. Et les résultats qui sont bons sont le résultat de politiques qui ont été mises en place, notamment par Obama. L'économie est en train de se remettre lentement de la grande récession qui a démarré sous le président Bush. Et à l'heure actuelle, nous assistons au retentissement positif de cette reprise. Mais qu'est-ce que ça signifie, une économie qui marche ? Le PIB n'est pas un bon critère de la mesure de la réussite de l'économie. Le taux de chômage peut être trompeur aussi. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. S'agissant du PIB, ce n'est pas le PIB total qu'il faut regarder. Il faut regarder comment le citoyen moyen, le citoyen lambda se porte. Et le citoyen lambda aux États-Unis ne se porte pas bien. En bas de l'échelle, les salaires ajustés pour l'inflation sont au même niveau qu'il y a 60 ans. Au milieu de la classe moyenne, les revenus, disons, d'un travailleur homme moyens sont pareils qu'il y a un peu plus de 40 ans. Ce n'est pas vraiment la preuve d'une réussite. Si l'on regarde l'espérance de vie, autre indicateur du bien-être, eh bien, l'espérance de vie est en déclin année après année, notamment depuis que Trump est à la Maison-Blanche. S'agissant du chômage maintenant, ce qui compte le plus, c'est la proportion de la population au travail qui est employée. Et ce chiffre-là n'est pas très glorieux. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui n'ont pas eu d'emploi pendant plusieurs années et qui ne cherchent plus d'emploi. Et ce n'est pas des gens qui sont employés, mais dans les statistiques de chômage, ils passent sous le radar.
Donc ce qui explique que malgré les chiffres, la façade, il y a une exaspération sociale, il y a une angoisse des classes moyennes, populaires, trop d'inégalités. Et la solution de Donald Trump, c'est en quelque sorte la démondialisation. Moins d'importations chinoises, moins d'étrangers, c'est aussi la solution que proposent d'autres leaders politiques en Europe. Ça paraît être du bon sens, revenir sur une mondialisation qui a produit de l'inégalité.
Non, non, ces politiques-là ne vont pas fonctionner. L'aspect intéressant de ces politiques, c'est que la tentative, c'est de faire assumer la responsabilité sur des politiques commerciales injustes ou l'immigration, plutôt que de regarder les erreurs que nous avons commises. Nous avons fait de grosses erreurs aux États-Unis. Mais la réponse, ce n'est pas la démondialisation, parce qu'il faut noter que la démondialisation touche les gens qui sont en souffrance. Et c'est ce à quoi on assiste. Alors nous parlons, Trump augmente les barrières commerciales, donc l'économie mondiale s'affaiblit. Et les entreprises américaines s'inquiètent si elles ne peuvent pas obtenir de pièces détachées, par exemple, de Chine ou du Mexique. Eh bien, les coûts des produits finis vont augmenter. Ainsi, les produits finis américains seront moins concurrents et il y aura plus de chômage. Donc, ce qui est malheureux dans tout cela, c'est que les politiques que Trump met en œuvre sont des politiques qui se tournent vers un monde qui n'existe plus, les années 50, 60. On ne peut pas faire revenir le passé, il faut aller de l'avant. Et Trump, lui, ne nous mène pas dans cette direction.
Alors parlez-nous du futur. Qu'est-ce qui va marcher face à cette exaspération sociale, face à ces angoisses ? Est-ce que le capitalisme est à bout ? Est-ce qu'il faut en finir ? Est-ce qu'il faut l'améliorer ?
L'objectif de ce livre, c'est d'expliquer qu'il y a une autre possibilité, qui est ce que j'appelle le capitalisme progressiste, une réforme du capitalisme. C'est ça que j'appelle de mes voeux. Il faut un nouveau contrat social. Il faut un nouvel équilibre entre les forces du marché, l'État, la société civile. L'un des aspects importants de cette nouvelle forme de capitalisme progressiste, c'est qu'il faut qu'on sache vivre selon les ressources limitées de la planète. Il faut que ça soit, autrement dit, un capitalisme vert, voilà, pour le dire en deux mots. Et moi, je suis convaincu que la transition vers un capitalisme vert, ça va créer des emplois, ça va donner plus de partage de la prospérité.
Alors, vous avez entendu Greta Thunberg à la tribune de l'ONU cette semaine. Elle s'exaspère, elle, de ceux qui parlent des contes de fées de croissance éternelle. Est-ce que la stagnation, voire la décroissance, ça serait des solutions pour protéger la planète ?
We have to have a different Ce qu'il nous faut, c'est une croissance différente. Toutes les formes de croissance n'ont pas la même empreinte carbone et n'ont pas les mêmes effets délétères que la croissance que nous connaissons depuis 30 ans. Nous avons réduit notre empreinte carbone assez considérablement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Personnellement, je suis convaincu qu'on peut arriver à une économie neutre en carbone avec de la croissance, mais il faut que cette croissance soit différente. Par conséquent, il nous faudra trouver un moyen de gérer notre économie mondiale de telle sorte que l'on respecte les limites des ressources de la planète, mais qui donne au plus grand nombre une vie convenable.
Donc plus de régulation et l'autorégulation, qu'est-ce que vous en pensez lorsque vous entendez les plus grands patrons des plus grandes entreprises américaines cet été qui disent qu'ils vont regardez au-delà du profit, au-delà du cours de l'action, est-ce que vous leur accordez du crédit ? Ils veulent se soucier des salariés, des citoyens, de l'environnement. Vous y croyez ?
En tout cas, aux États-Unis, nous avons remporté une grande victoire. Nous avons réussi à quelque peu changer l'état d'esprit des entreprises qui avouent maintenant qu'elles ne s'intéressent pas qu'à la valeur pour les actionnaires. Donc ça a beaucoup changé depuis Milton Friedman dans les années 70, début des années 80. Cette forme de capitalisme effréné n'a pas marché aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs.
Et vous croyez qu'ils sont prêts à changer ?
Not on their own.
Non, pas seuls. L'autorégulation, c'est en fait un oxymore. Les deux mots ne vont pas ensemble. Si l'autorégulation avait fonctionné, on n'aurait pas eu la crise financière mondiale de 2008. Donc, c'est une première étape. C'est un premier pas en avant d'avoir les entreprises reconnaître qu'il y a des choses au-delà de la valeur pour l'actionnaire. Et les meilleures entreprises auront un meilleur comportement, un comportement plus vertueux. Néanmoins, il faut de la réglementation. Il faut changer les lois de gouvernance des entreprises pour qu'elles se comportent convenablement. Nous devons nous assurer, par exemple, que les banques ne prêtent pas pour financer des centrales au charbon. Nous devons nous assurer que les sociétés agroalimentaires ne produisent pas des aliments qui provoquent le diabète chez nos enfants, que les sociétés pharmaceutiques ne promeuvent pas des produits qui pourraient générer des épidémies d'overdose, que les sociétés de tabac ne fassent pas des efforts pour accoutumer les enfants aux cigarettes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et nous savons que les entreprises ne se sont pas auto-régulées. Et nous devrons faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est un premier pas. Elles reconnaissent qu'elles ont une certaine responsabilité envers la société qui va au-delà simplement des actionnaires. Et c'est une bonne chose.
Les premières visées dans votre livre, ce sont évidemment les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook. Est-ce qu'il faut faire comme avec la Standard Oil ? Est-ce qu'il faut les démanteler ?
S'agissant de Standard Oil, en effet, elle a été démantelée en 8 ou 10 entités différentes. S'agissant de certaines entreprises des GAFA, on pourrait les démanteler d'une certaine façon. Pourquoi avoir permis à Facebook de faire l'acquisition d'Instagram et de WhatsApp ? Mais ça ne suffit pas de décomposer ces entreprises. Même le cœur de Facebook aurait beaucoup de pouvoir sur le marché. Google, évidemment, société évidemment puissante, rien que par son moteur de recherche. Donc, il nous faudra être plus ferme pour réglementer tout cela. Les règles américaines ne sont pas encore assez puissantes, mais même l'Europe n'a pas assez de règles puissantes. Donc, démanteler, oui, ça c'est le premier pas, mais ça ne va pas suffire. Il nous faut de la concurrence, il faut des réglementations pour éviter les conflits d'intérêts, une meilleure gestion des données privées. C'est un nouveau domaine, inexploré pour l'instant. Il y a un aspect important, et la France est à la pointe là, c'est que ces entreprises doivent payer leur part des impôts.
La taxe GAFA de la France qui y va toute seule, c'est bien ?
Oui, c'est très bien. Les sociétés les plus riches du monde ne payent pratiquement pas d'impôts dans certains cas. En tout cas, ne payent pas leur part des impôts. Prenez Apple, par exemple. Apple a pris les bénéfices qui auraient dû être l'assiette des impôts. Ça distord l'économie parce que ces entreprises ont plus de ressources que d'autres entreprises. Et les autres entreprises payent leurs impôts et eux, non. Et il est pratiquement certain que même cette taxe GAFA ne suffit pas. Elle devrait être encore plus élevée pour que les choses soient plus égalitaires, mais en tout cas, c'est un début.
Joseph Stiglitz, dans votre livre, vous expliquez aussi que vous voulez réduire les inégalités de patrimoine. Alors l'économiste Thomas Piketty, lui, il explique justement qu'il faut sortir de la sacralisation de la propriété. Il a un concept de propriété temporaire qui fait beaucoup réagir. Certains crient à l'expropriation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut être clair quant à nos objectifs. Nous ne voulons pas de plutocratie qui s'est enrichie par le patrimoine. Donc, on est en train de se diriger vers cela. Au contraire, nous voulons une société où il y a plus de chances de réussite. Le fameux rêve américain. Aujourd'hui, on se rend compte que ce rêve est un mythe. Moi, je ne pense pas que si on impose à 3%, c'est ce que propose Elizabeth Warren. Les gens qui ont un patrimoine de plus de $1 milliard doivent payer 3% d'impôts sur la fortune. Moi, je ne pense pas que ça gênerait qui que ce soit. Bill Gates continuerait à travailler. Jeff Bezos, ça l'empêcherait pas de travailler, ça. Et d'aller de l'avant. Autrement dit, ça constitue une façon d'encourager les gens tout en disant, écoutez, on ne peut pas quand même avoir autant de richesses au point que ça distord l'économie et ça nuit aussi à la démocratie.
Donc il faut en finir avec les milliardaires ou pas ?
Non. Il faut les imposer un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, moi, je me fais le défenseur de politiques antitrust un peu plus fermes. Et si on avait des mesures comme ça, il n'y aurait pas d'accumulation de richesses aussi énorme que celle auxquelles on assiste. La plupart des gens qui sont très riches le sont devenus grâce au pouvoir du marché. Quels sont les critères ? La concurrence, ça nuit aux bénéfices. Plus il y a de concurrence, moins il y a de bénéfices. Évidemment, Google n'a pas des bénéfices à zéro. Google a beaucoup de bénéfices. Même chose pour Amazon ou Facebook. Qu'est-ce que ça signifie ? S'il y a plus de concurrence, on n'aura pas les excès de richesse. Mais ce ne sera jamais parfait, on est bien d'accord. Mais c'est pourquoi il nous faut un impôt sur ces excès qui reflète une imperfection dans le fonctionnement de l'économie de marché.
Le livre s'appelle « Peuple, pouvoir et profit ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci Joseph Stiglitz d'avoir été sur France Inter.
Well, thank you.
Et merci à Xavier Combe pour son interprétation. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Alors Sandrine, c'est Clémentine qui vous a écrit. Elle travaille dans une société de service à la personne où les arrêts maladie se multiplient pour surmenage. Et elle vous demande, est-ce que l'employeur doit tenir compte de nos limites physiques et mentales ?
Normalement oui, surtout que les travailleurs français n'ont pas la pêche. Le taux d'absentéisme continue d'augmenter. En 5 ans, le nombre des pathologies mentales liées au travail a été multiplié par 7. Le dernier ouvrage d'Alain Supiot, sorti hier en librairie, y fait référence. Dans ce livre, Le travail n'est pas une marchandise, que je vous recommande chaudement, Clémentine. Ce juriste explique que la gouvernance par les nombres, par les contrôles, les évaluations, ajoute une emprise cérébrale aux contraintes physiques. Et la révolution numérique, nous dit Alain Supiot, pousse à ce que le travail des hommes soit construit sur le modèle de celui des ordinateurs, c'est-à-dire comme le lieu d'exécution d'un programme, alors qu'il faudrait que nous retrouvions la liberté dans le travail.
Mais tous les jours au travail, est-ce une utopie de croire que les entreprises vont prendre en compte la santé des salariés? salariés.
Alors non, ce n'est pas une utopie. Les juristes y travaillent. Dans un article paru dans la semaine sociale L'Ami, Hervé Lanouzière raconte l'histoire d'une ancienne assistante des ressources humaines d'une entreprise de nettoyage licenciée pour inaptitude. Elle croulait sous le boulot après le départ d'une collègue non remplacée. Elle a attaqué son employeur en justice. Elle lui reprochait de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter cette surcharge de travail et les notations dévalorisantes qui ont eu des conséquences sur sa santé. Jusque-là, c'est assez classique, mais la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt vraiment innovant. Elle a jugé que l'employeur n'avait pas respecté le principe d'adaptation du travail à l'homme. Adapter le travail à l'homme et non l'inverse, c'est dans le code du travail. Dans un autre arrêt de la cour de cassation du 11 septembre, qui concerne des anciens mineurs de Lorraine exposés à l'amiante, les juges disent là aussi que les employeurs devront dorénavant apporter la preuve qu'ils ont adapté le travail à l'homme. Ça ouvre des perspectives pour tous ceux qui sont exposés à des substances cancérogènes au travail. Il y en a 2 millions en France. Ça ouvre aussi des horizons à tous ceux qui sont exposés à des risques psychosociaux et qui perdent leur boulot parce qu'ils sont usés. Combattre les risques à la source, ça fait aussi partie des 9 grands principes de prévention du Code du travail. Les juges y sont de plus en plus sensibles. C'est une façon de pousser les employeurs à réfléchir plutôt deux fois qu'une à l'organisation du travail.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, écrivez-lui sur le site franceinter.fr. Réécoutez l'émission en podcast, par exemple sur l'appli Radio France. Merci à vous, merci à l'équipe, Coyenne Guyen, Valentin Pérez et Charles Pélabon. Le Magéco baisse le rideau, on vous donne rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure.